Ease of the Fall. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être sur le nouvel épisode d'Entreprendre à l'étranger. Aujourd'hui, on va rester en France le temps de cet épisode et je vais la donner la parole pendant cet épisode à Jeanne, rencontrée sur LinkedIn autour d'un post d'une expatriation en Thaïlande. Merci d'être là et je te laisse la parole pour te présenter.
Bonjour Alim et merci beaucoup de ton invitation. Effectivement, suite à la suite du post que j'ai posté sur LinkedIn la semaine dernière. Je m'appelle Jeanne, j'ai 36 ans, je vis à Paris. Effectivement, on est resté en France pour cet épisode, mais j'espère pour pas longtemps. J'espère que l'année prochaine, à la même date, on se reparlera et que je ne serai plus à Paris. Je travaille pour beta.gouv.fr, qui est une espèce de communauté de réseau d'incubateurs interministériels de l'État, qui est rattachée à la direction interministérielle du numérique, qu'on appelle la DINUM, et qui est placée sous l'autorité des services du Premier ministre. Voilà ce que je fais professionnellement et je suis précisément implantée à Pantin personnellement et dans le 7e professionnellement. Est-ce que tu as d'autres questions
Non, j'ai pas de questions. Merci pour la présentation. On va rentrer dans le vif du sujet. Je t'ai alpagué sur LinkedIn suite à ce post où tu racontais ta vie en Thaïlande.
Oui.
Avec une première arrivée en 2018.
C'est ça.
Puis celle qui a suivi et qui a donné naissance à ton premier poste que j'ai suivi, puis au deuxième et à tous les articles qui apparaissent à toutes les heures du jour et quasiment de la nuit. Là, le dernier que j'ai lu, c'est sur Noémie, qui va sortir sur dans ta newsletter.
Oui, j'ai lancé du coup... j'ai commencé à écrire sur LinkedIn un peu plus... régulièrement depuis début janvier, puisque j'ai rejoint le bootcamp LinkedIn de Nina Ramen. Et l'idée, c'était de prendre un peu plus la parole sur ce réseau professionnel, pour plein de raisons, mais qui n'ont pas lieu d'être dans ce podcast. On pourra en refaire un autre plus tard. Et du coup, j'ai voulu partager mon expérience de nomade digitale, de femme qui est à la fois contractuelle de l'État, mais qui réfléchit à redevenir solopreneur, slow freelance et à repartir dans ce nomadisme digital. Et donc, j'ai commencé à raconter un peu mon histoire sur plein de pans de ma vie et de mes envies. Et plusieurs personnes m'ont dit « Bon, ce serait cool que tu lances une newsletter, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas toujours apparaître tes articles sur le réseau, qui n'est pas forcément toujours organisé. » Et donc effectivement, j'ai une amie que j'ai rencontrée à Phuket et elle a un parcours incroyable et en plus elle n'a que 25 ans et elle, pour le coup, elle a fait beaucoup de nomadisme et elle a une courbe exponentielle en termes de salaire et de vie professionnelle que je voulais absolument raconter. Alors je me suis dit que le 14 février était un jour symbolique, je l'ai dit à la fin du post, c'est le jour du love et de la moula. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment le bon moment pour lancer la newsletter, pour raconter le parcours de Noémie. Et voilà, c'était ma volonté d'associer les deux. Alors du coup, effectivement, sur LinkedIn, j'ai commencé à raconter ma vie en Thaïlande parce que beaucoup de gens, chaque fois que je leur raconte cette histoire, sont assez étonnés de comment j'ai pu à la fois avoir l'État pour client et à la fois travailler en tongs et pieds nus et en short au bord d'une piscine pour l'État français. Et à chaque fois, on me demande des détails, et c'est comment, et c'était comment, et c'est tellement long. Alors du coup, je me suis dit, allez, je vais poser le truc à l'écrit, voir quelles sont les questions, et updater au fur et à mesure par des articles et par des posts. Et voilà que tu es arrivé dans mes MP. Alors du coup, c'est cool, après l'écrit, on va le faire à l'oral.
Non, mais ce qui est assez marrant, c'est que tu as vu, il y a de la demande. C'est quand tu as communiqué sur le podcast hier, là on enregistre le 9, donc hier le 8, échéance, c'est qu'il y a, bah, par exemple, Elisabeth Doyle, c'est une invitée du podcast.
Oui, elle m'a écrit pour me dire, Ali, mais super sympa, tu devrais faire le podcast. Du coup, elle a fait un petit coup de refaire. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je me suis dit, allez, si Elisabeth me dit go, parce qu'Elisabeth est aussi dans le bootcamp avec moi, avec une heure à même, et ouais, elle a complètement validé le podcast. Donc c'est vrai que c'est mon. J'ai fait une fois de la radio. Et je me suis dit, plus jamais, parce que je parle super vite, et je m'excuse auprès des auditeurs d'ailleurs qui écoutent ce podcast, et je parle super vite parce que je réfléchis super vite et que je suis tout le temps speed, et du coup j'évite les podcasts, mais là je me suis dit c'est un sujet trop cool et non, j'ai trop envie d'en parler, donc voilà pourquoi j'ai accepté.
Donc du coup, si tu veux, parce que j'ai lu ton dernier post hier, je mettrai en intro une musique d'Eminem.
Ah ouais, j'ai mis les paroles de Godzilla d'ailleurs, parce que c'est celle où je crois il va le plus vite, il fait 7 mots à la seconde, donc du coup...
j'ai lu les deux lignes et ça me parlait.
Bah oui.
Tu les relis, puis à la fin, c'est idiot, mais en fait, la phrase où tu expliques, elle est en dessous.
Ouais, alors je l'ai remonté justement, je me suis dit, bon, je le laisse en suspense comme ça, et du coup je l'ai remonté, tu vois, mais j'ai décidé d'assumer qui je suis. Je parle vite et je réfléchis vite et je fais les trucs super vite et c'est comme ça et c'est cool et voilà.
Non mais on mettra Godzilla en intro du podcast.
Trop bien, j'ai hâte.
Du coup, bah écoute, moi la première question qui me traverse l'esprit, c'est comment l'État accepte que ses employés, ses salariés ou comment dire, même ses collaborateurs travaillent à plus de 7 ou 8 heures de fuseau horaire. Et comme tu as dit, en tongs et en short. Ça se passe comment ? C'est qui amène l'idée ?
Alors, déjà, très important, je n'étais pas du tout salariée ni employée de l'État français. Aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas travailler loin de ma résidence administrative qui est Paris. Je pourrais bosser à Lyon ou à Rennes puisqu'on a des bureaux de la DINUM. En revanche, ce ne serait pas possible, puisque je suis assimilée fonctionnaire, d'être loin de mes bureaux, ce qui est tout à fait normal en soi. Je ne concevrais pas en tout cas de le demander et ce n'est pas possible. En revanche, la chance que j'ai eue, c'est d'intégrer beta.gouv.fr en 2017 en freelance et en indépendante, donc sous un volet auto-entrepreneur. Et on est aujourd'hui... Alors moi, quand je suis arrivée, on était 35. Quand je suis partie, on était moins de 100. Et aujourd'hui, on est 777 personnes dans la communauté et une très grosse partie d'entre eux sont indépendants. Parce qu'on a vraiment du mal à avoir ce qu'on appelle des slots pour employer tout le monde. Et donc, du coup, dans les équipes, généralement, les deux tiers sont indépendants. Et donc, on a plein de gens aujourd'hui qui sont développeurs, business développeurs, coachs, designers, qui ne travaillent pas dans les bureaux et qui sont en remote, voire en full remote. On a des gens... aux États-Unis, on a des gens en Israël, on a des gens qui sont comme moi dans des pays plus exotiques, qui travaillent dans les équipes. Donc ça, c'est quelque chose, ils savaient déjà travailler avec des développeurs et des développeuses en remote. Donc ils avaient déjà cette expérience-là. Mais c'était vraiment le métier de développeur, en fait, à l'époque. Et moi, je suis arrivée sur un métier de business développement, sur un métier de déploiement, sur un métier fonctionnel et pas du tout technique. Et donc, j'ai été la première un peu à travailler loin, sur cette partie-là du job. Donc j'arrive en 2017, je t'épargne les détails, je fais jusqu'en novembre à peu près, donc un an et quelques, je travaille à fond, à mort, je monte notre formation à l'innovation publique, je lance un programme d'investigation, je fais du transverse, du marketing, du recrutement, je fais plein de choses, donc en freelance, et comme je le raconte dans mon article et dans le post, en décembre, je veux prendre des congés, et moi j'ai une peur panique de l'avion, et à chaque fois que je pars pas très loin, je vais en Espagne, je vais au Maghreb, je vais en Europe, voilà, et je suis effectivement déjà partie au Mexique et aux États-Unis, mais avec toute la douleur du monde à chaque fois de prendre l'avion, et je pleure à chaque fois dans l'avion, mais la Thaïlande était un de mes rêves, sauf qu'il y avait une escale. Et ça, c'était pas possible pour moi. Et à ce moment-là, j'ai un ami qui m'avait parlé des camps d'entraînement en Thaïlande. Et moi, j'étais dans un focus diététique, healthy, m'entraîner. Et je me rappelle de ça et je me dis, allez, j'ai envie d'aller en Thaïlande. Il y a des camps d'entraînement là-bas, c'est pas cher, on mange bien, il fait beau, c'est mon rêve. Et du coup, j'en parle à une collègue et cette collègue, elle me dit, je vais te rendre ce qu'on appelle en anglais accountable. Donc, je ne te laisse pas, enfin, je vais te suivre jusqu'à ce que tu prennes l'avion. Elle s'appelle Camille et je la remercie parce qu'elle a changé ma vie. Et donc, tous les jours, elle me disait, t'as pris ton billet. Jusqu'au jour où j'ai pris mon billet, j'ai dit, allez, je pars en vacances, j'ai pris un mois de vacances. En revanche, quand on est indépendant, généralement, même quand on est en vacances, bah, on a toujours un peu l'œil sur le travail parce que bah, c'est pas comme, j'ai envie de dire, c'est pas comme un salarié. Et même, il y a même des salariés qui sont comme ça. Moi, aujourd'hui, même en tant qu'employée, là, je suis en formation et en congé en ce moment, mais j'ai toujours un œil sur le job. Et ben, en tant qu'indépendant, j'ai l'impression que c'est encore pire ou encore mieux. Je sais pas trop dans quel sens le prendre, mais du coup, j'étais toujours connectée. Et je me suis dit, OK, je vais partir un mois, je vais être à 6 heures de décalage, j'ai encore 2-3 trucs à finir, mais allez, je me lance ce challenge, je peux le faire. Donc, je prends un mois de congé, je pars, j'arrive à gérer tout ce que j'ai à gérer là-bas. Donc, je fais des calls en France à 17 heures, ce qui fait 23 heures en Thaïlande, puisqu'on a 6 heures de décalage. Et j'arrive à tout plier. J'arrive à vendre pour 60 000 euros de projet, j'arrive à tenir les délais, à envoyer la newsletter interne, donc à faire tout ce qu'il faut. Et du coup, je me dis, mais en vrai, c'est faisable. Je pourrais vivre ici, travailler d'ici. Donc déjà, ça commence à rentrer dans ma tête. Je vois que la dépression parisienne est loin, je vois qu'il fait beau. Alors, je commence à apprendre à rouler en scooter, même si je le raconte, je me suis défoncée au départ. Mais je lâche pas l'affaire, je me dis non, je veux apprendre à rouler à deux roues, je sens la liberté à deux roues. Je vois que je peux travailler au bord d'une piscine, je vois qu'il y a des gens qui font du trading, il y a des gens qui font du community management, il y a des coachs. Je vois qu'il y a une vraie communauté de nomades digitaux. Et que c'est possible, en fait, de à la fois s'entraîner le matin, parler avec mes collègues l'après-midi, rencontrer des gens le soir, et en fait, de pas vivre dans la neige et dans le froid et dans le métro et avec des gens aigris qui sont pas heureux. Parce que moi, je le vis vraiment comme ça, en fait. Alors, Paris, il y a plein de gens qui adorent Paris. Moi, j'ai beaucoup de mal à vivre ici. Et donc, je me dis, allez, vie de rêve, y en a qui l'ont fait, je peux le faire aussi. Et en plus de ça, je suis à un endroit où il n'y a pas de français. Alors tout le monde me dit Phuket, il y a trop de français, c'est une ville qui est moche, il se passe plein de trucs bizarres. Et en fait moi j'étais à Chalong et j'ai dû rencontrer un ou deux français, vraiment, et donc je parlais pas anglais à l'époque. Je suis arrivée, je savais même pas commander une salade, et en un mois j'ai parlé avec des gens du monde entier, avec des religions différentes, des convictions différentes, un mindset différent. J'ai rencontré des combattants du UFC et de One Championship, j'ai rencontré des gens qui ont énormément d'argent et des gens très pauvres. Ça m'a changé ma vie. Je me suis dit, alors moi, j'ai jamais fait Erasmus. J'ai fait la fac. J'ai fait une fac de psycho. Donc, d'où le fait que j'ai pas appris l'anglais.
C'est intéressant.
Ouais, j'ai fait une fac.
Clinique ou cognitive?
J'ai fait clinique d'abord et après, j'ai fait psycho du travail et psychosociaux parce que j'ai fait un stage en chimio. J'ai vu des gens mourir et j'ai dit, plus jamais de ma vie, je fais de la clinique. Ça m'a vraiment choquée. Et il y a un post sur ça où je raconte mes 6 ans d'études de psycho et pourquoi j'ai bifurqué et ce que ça m'a apporté. Alors pour le coup, la psycho avant, c'était une vraie blague. Hein. C'est bouché, il y a pas de taf, ça sert à rien. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde te dit « Ah, tu veux influencer ? Faut faire de la psycho. Tu veux faire du market ? Faut faire de la psycho. Tu veux monter ta boîte, être CEO, gagner des millions ? Faut faire de la psycho. » Parce que tout est lié à l'humain aujourd'hui, tout.
Et donc, C'est intéressant ce que tu dis. J'ai été contacté par une psycho du travail.
Ouais.
Sur Marseille, pour évoquer la psychologie du chef d'entreprise.
Ouais,
et
bah ouais.
Elle a 40 ans.
Ouais.
Et ça fait à peine 2 ans qu'elle est installée.
Ouais.
Après avoir fait un doctorat en histoire, d'avoir travaillé dans le secteur médical, d'avoir bossé à l'INSERM. Et le jour où elle décide de monter sa boîte, elle crée un projet et on lui dit, ouais, mais du coup, qui est le psycho de la boîte qui a validé le projet?
Mais oui.
Elle était maître de recherche.
Ouais, c'est énorme. Hein.
Mais elle te dit, là, tu rentres, ouais. Tu vas voir ton mari, tu lui dis, bon, je reprends des études en psycho, qu'est-ce que t'en penses? Elle fait, inconsciemment, toi, tu veux qu'il te dise, non, arrête tes conneries. Et là, il lui fait, bon, bah, c'est quoi, c'est 3-4 ans, vas-y. Il y a le ressort psycho à 38 ans.
Énorme, c'est 5 ans, effectivement.
Et vu qu'elle avait un doctorat, donc elle est rentrée, c'est la fac d'Aix qui l'a pris en L3 directement.
D'accord. Ah oui, d'accord. Elle a bénéficié d'une espèce de passerelle.
Ah oui, c'est qu'elle se pointe, oui. Moi, j'ai 35 ans, je suis doctorante. Je sors de l'INSERM, je reprends mes études.
Incroyable. Et incroyable. J'adorerais lire sur son parcours, mais bravo à elle, en tout cas, d'avoir eu cette justesse d'avoir fait ça. Et j'espère que sa boîte cartonne, d'ailleurs.
Il y a plein de projets, c'est hyper intéressant. On aura l'occasion d'en parler, mais c'est hyper intéressant.
Tu t'appelles comment ?
Donc, non, je reprends. Donc, ouais, tu sors de 6 ans d'études de psycho.
Oui, alors j'ai fait 6 ans d'études de psycho et effectivement, aujourd'hui, enfin à l'époque c'était une vraie blague, comme je te disais, on voulait m'empêcher de le faire et tout le monde me disait tu vas finir au SMIC ou être soignante en EHPAD et en fait aujourd'hui tu vas être copywriter, copywriteuse, faire de la psycho, tout le market, tous les sujets aujourd'hui de business sont liés à la psycho, que ce soit dans le pro, dans le perso, c'est ma plus grande force. Et je ne sais plus pourquoi je te parle de tout ça, mais en tout cas, j'ai fait psycho, effectivement. Est-ce que tu te rappelles pourquoi je te racontais ça ?
Non, on évoquait le fait des différents profils rencontrés en Thaïlande, en passant du trader au combattant du UFC.
Ouais, donc je rencontre un tas de personnes comme ça, hyper différentes là-bas, et moi, ça m'ouvre l'esprit, en fait, oui, je te disais, j'ai pas fait Erasmus, moi. J'ai fait une fac de psycho. J'ai jamais été à l'étranger. J'ai pas étudié à l'étranger. J'avais un truc qui me manquait énormément. Je sentais, en fait, dans ma carrière pro qu'il me manquait une expérience à l'étranger. Mais je parlais pas anglais. Et j'avais cette peur. Je voulais aller à Londres, je pouvais pas. J'avais envie de bosser à New York, je pouvais pas. Et tout le temps, je me freinais, en fait, à faire ça. J'avais jamais sauté le pas. Et là, je me suis dit, donc, tu peux bosser pour l'État français. En français. D'un pays où tu apprends l'anglais avec des gens du monde entier, au soleil, et c'était incroyable. Tu manges pour 2 euros, en plus je mangeais du poisson blanc et des brocolis, le truc que je ferais jamais en France. C'est-à-dire que ici tu vas commander Uber Eats et tout, et là-bas tu t'assois au resto et tout le monde mange sainement, et donc t'es là et t'es trop fière de toi, tu commandes des épinards, du poisson, et tu t'entraînes parce que tout le monde s'entraîne là-bas à 7h du mat, tout le monde se lève, et tout le monde est en train de courir dans la rue, tout le monde est en tenue sportive toute la journée. Personne n'est habillé, personne n'est sapé, sauf peut-être le soir ou en week-end, mais c'est le sport, c'est vraiment la rue des sportifs, c'est la fitness street, tu peux regarder.
J'ai vu la vidéo sur YouTube.
Elle est magnifique, il y en a plein, donc il y a plein d'articles et plein de vidéos, tu tapes fitness street Phuket, c'est à Chalong, et en fait c'est un espèce de Disneyland de 1 km où tu as les uns à côté des autres, salle de sport, restaurant healthy, laverie, location de scooter, hôtel avec genre à 400 euros avec piscine, et tu recommences. Salle de yoga, salle de boxe, salle de Muay Thai. Toute la rue, c'est comme ça. Et c'est une rue en longueur, en fait. Et donc là, tu le vois dans la vidéo, en fait. Et donc, tu prends ton chèque de protéines ou tu bois ta coconut fraîche. Tu manges ton poisson et tes épinards. Tu passes dans la salle, tu vas laver tes affaires. Tu bois un truc protéiné avec tes potes et tu recommences toute la journée. Et en fait, tu peux pas ne pas faire de sport parce que toute la journée, les gens sont là. T'as fait quoi aujourd'hui ? T'as fait quel cours aujourd'hui ? T'as été à ton yoga aujourd'hui ? On t'a pas vu ce matin. Et donc, c'est en mode, tu rendais compte sur ce que tu manges, sur ce
c'est
que...
Ouais, c'est un cercle vertueux.
Incroyable. Genre, je me suis dit, je suis dans un monde parallèle. Et du coup, je suis rentrée de là-bas. J'avais perdu du poids. Je me sentais mieux. J'avais bien mangé. Enfin, mon taux... Alors, attends, incroyable. Je rentre, je fais des analyses sanguines. Tous mes taux étaient remontés. Le fer, les vitamines. Mon corps m'avait dit merci, en fait. Mon corps et mon esprit, tu vois. Et donc, quand je suis rentrée, je me sentais trop mal. Tout a changé, en fait, j'allais trop pas bien, et mes collègues me regardent et me disent « Non, Jeanne, t'es pas du tout la même quand t'es là-bas et quand t'es ici. » Parce que j'avais une partie de mes collègues sur Instagram qui me suivaient, j'ai enlevé mes publications, mais avant, je postais énormément, et même en visio, et même mon état d'esprit, ils me disent « T'avais rien à voir, retourne là-bas. » Donc déjà, c'est même pas que moi qui l'ai amené, c'est que je suis partie juste pour des vacances. Je suis revenue, mes collègues ont vu que j'allais moins bien. J'ai commencé à leur dire, franchement, je me sentais trop bien là-bas et j'arrivais à bosser. Et ils m'ont dit, nous, on croyait que t'étais ici. Hein. On sentait pas le fait que t'étais là-bas. Et je me suis dit, il y a un truc à faire. Et du coup, j'ai commencé à en parler à... En fait, si tu veux, nous, on est en horizontal. On n'a pas de management. On est un collectif. On prend nos décisions en collectif. Et donc, c'est à la fois cool parce que tu peux convaincre. Et c'est à la fois difficile parce qu'il faut convaincre plusieurs personnes. Et quand il y a quelque chose où quelqu'un met un veto, bah ça devient très difficile de faire le truc. Et du coup, il y avait un peu des personnes phares qui étaient autour de moi dans la communauté et qui avaient un peu, si tu veux, ce halo de responsabilité pour réfléchir aux prochaines missions, à la vision. Et donc, il y a 3-4 personnes comme ça avec qui j'ai échangé en disant, voilà, t'as vu, en décembre, bon, j'ai bien bossé l'année dernière, en décembre, j'ai réussi à faire ça de Thaïlande, j'ai jamais été en Erasmus, j'ai vraiment adoré ce que j'ai vécu là-bas, j'ai un appel du cœur, j'ai besoin d'y retourner assez rapidement, et j'ai envie de bosser de là-bas, j'ai envie de rester avec vous. Est-ce que vous accepteriez ou pas, ou est-ce qu'il faudrait que j'arrête ma mission? Donc j'ai amené le truc tranquillement, les questions ont été, ok, bon, t'es un freelance, donc c'est cool, t'es pas employé d'État français, donc tu peux bosser pour nous à l'étranger, ça c'est good. C'est vrai qu'en décembre, t'as réussi à faire le taf. C'est vrai qu'on remarque que tu vas moins bien depuis que t'es rentré. Maintenant, comment tu vas t'en sortir? Combien de jours tu vas bosser? Quelle mission tu veux faire? Parce que c'est génial chez Beta, c'est qu'on te demande ce que t'as envie de faire. On te dit pas, il faut faire ça. Donc, les missions que t'avais, tu vas les passer à qui? Qu'est-ce que t'as envie de faire de là-bas? Et voilà. Fais-nous un business plan, en vrai, tu vois, et en gros, c'était, présente-nous un truc. Donc, du coup, j'ai une collègue qui s'appelle Inès, qui est géniale, à qui je savais que je pouvais faire confiance et qui avait envie de prendre de nouvelles missions. Donc déjà, ça, c'était trop cool, je lui ai passé la formation Alpha et le programme d'investigation, et elle était contente et j'étais contente, j'avais super confiance en elle pour qu'elle elle adopte le bébé et qu'elle le fasse grandir, c'était top. Donc ça, c'était fait. Ensuite, je bossais 3-4 jours par semaine, j'ai dit, j'aimerais bien faire 1 à 2 jours. Parce que comme je travaille aussi vite que je parle, j'arrivais à plier les trucs assez rapidement. Ok, très bien. Tu vas faire quoi pendant 1 à 2 jours? Alors, il y a ça que j'ai pas envie de passer. Le transverse, le recrutement, la newsletter interne, tous ces sujets que je peux faire à distance. Je vous propose qu'on fasse un test de 3 mois. Je travaille là-dessus. Si ça va pas, je rentre. Si ça va, je continue, je finis mes 3 mois et je rentre et j'organise le séminaire à la campagne pour l'équipe et je rentre pour ce séminaire et on discute. Et voilà, on avance en marchant. Et ce qui est encore plus génial, c'est que chez nous, on fait du lean. Le lean, c'est on teste, on voit si ça marche ou pas. Si ça marche pas, on arrête. Et si ça marche, on continue. Amélioration continue. Alors, j'ai récupéré le lean et j'ai dit, bah, je l'utilise dans mon expérience. Et c'est comme ça que c'est parti. Et donc, du coup, j'ai repris un billet pour 3 mois et je suis partie et je me suis dit, cette fois, tu restes pas qu'à Phuket. Donc, je suis repartie, j'ai travaillé de là-bas. Et en fait, le matin, je m'entraînais. Je faisais de la boxe le matin à 7h. Ensuite, j'allais petit déjeuner. Ensuite, j'allais au yoga. Après, je me reposais au bord de la piscine où je faisais 2-3 trucs pro ou perso. Après, j'allais à la muscu. Donc, tu vois, je faisais 3 heures de sport par jour, 5 jours par semaine. Et c'était une routine comme le boulot, quoi. Et c'était génial. Après, j'allais déjeuner. Ensuite, je faisais la sieste. Je le dis dans l'article, la Marseillaise du 93, la sieste, c'était vraiment le... Franchement, c'est juste incroyable de pouvoir faire la sieste tous les jours. Après, je bossais, puisque quand il est 15h en Thaïlande, il est 9h en France. Et donc, vers 15h30, je me mettais à bosser. Donc, les visios, les calls, les trucs à faire. Tout le monde savait à peu près que j'étais dispo à ces heures-là et donc on s'arrangeait très très bien. Après, j'allais dîner avec les gens de la rue, puisque là-bas, tu peux pas rester seule. Là-bas, tu t'assois, tu commences à manger, même si t'as ton ordinateur. Coucou, tu viens d'où? Coucou, tu t'appelles comment? Et ça, c'est génial pour les nomades digitaux parce que tu peux pas rester seule en fait. Et si t'as envie d'être seule, ben bon, tu vas dans une autre rue ou tu fais autre chose ou tu restes dans ta porte. Mais quand tu sors pour dîner là-bas ou même pour déjeuner, personne te laisse seule. Et du coup, il y a des Brésiliens, il y a des Tchétchènes, il y a des Russes, il y a des Américains, il y a des Australiens, il y a des Européens, il y a tout sauf des Français, enfin très peu de Français en tout cas. Mais genre, t'apprends des trucs incroyables du monde entier. Et du coup, t'es toute seule et puis tu te retrouves à 20 sur une table comme ça. Et donc tous les soirs c'était comme ça. Et donc après je rentrais dans ma chambre et là je regardais si j'avais 2-3 trucs à faire niveau boulot et sinon j'allais dormir. Et donc j'étais sur 2 jours à peu près, donc tu vois je découpais en demi-journée. Et le plus marrant dans tout ça c'est que je m'occupais de la newsletter interne du bureau. Et donc on était une centaine de membres et une partie en remote, une partie au bureau. Et moi, toutes les semaines, j'écrivais une newsletter où je disais « Salut tout le monde, cette semaine, il s'est passé ça au bureau. Cette semaine, il y a eu ça, il y a eu telle info. » Et en fait, les gens m'écrivaient en me disant « T'es rentrée ? mais t'es au bureau ? Et je disais, bah non, je suis à Phuket. Mais comment tu fais tout ça, en fait ? Comment tu
sais ? Mais ça doit être horrible de le savoir, ça. Tu sais, la newsletter interne écrite et diffusée depuis la Thaïlande.
Alors, je l'ai mis en introduction de ma newsletter et j'ai dit, cette newsletter est envoyée depuis 10 000 kilomètres directement dans vos boîtes. Non, parce qu'en fait...
Et c'est là où tu te dis les 6 années de psycho.
Incroyable, hein, ça sert. Et en fait, non, mais j'ai des collègues incroyables. Ils sont bienveillants, ils étaient tous contents pour moi, envoyés du soleil, c'est génial. Et en fait, tu sais, quand tu es dans la bienveillance et que tu réfléchis correctement, tu te dis, si elle a pu le faire, je vais pouvoir le faire. Si elle le fait, je peux le faire. Et si elle le fait, ça veut dire que ça rend notre communauté intéressante aussi pour les gens qui vont venir bosser chez nous. Et donc, du coup, ça devient de la marque employeur et ça devient avoir des collègues qui sont heureux. Et tu vois, et c'est ça qui est pourquoi je suis restée dans ce job-là. Moi, tu sais, avant Betagouv, tous les 6 mois, je bougeais. Je suis jamais restée trop longtemps dans tous mes jobs. Et ça fait 4 ans et demi que je suis chez Beta et j'ai pas l'intention d'en partir. Parce qu'il y a ce mindset-là. Il y a ce truc de... Tu vois, là, je suis en formation. Je suis en formation no-code, code, automatisation pendant 8 semaines. Ça aurait été très difficile ailleurs qu'on me laisse partir pendant 8 semaines pour apprendre des trucs. Et en fait, mes collègues m'ont dit, c'est génial. Go, cours, va faire ça, va apprendre des trucs, ça va te servir, ça va nous servir. Et en fait, plus t'es épanoui dans ce que tu fais, et plus tu vas bien faire ton job. Et c'est comme ça qu'on réfléchit. Et donc, du coup, j'ai été hyper transparente et honnête. Et j'ai dit, cette newsletter est envoyée de Phuket. Tu vois, ou cette newsletter a été écrite à 4h ce matin. Mais parce qu'en fait, il est, je sais pas quelle heure en France, ou tu vois. Enfin, j'ai essayé de faire des jeux de mots comme ça à chaque fois. Et, mais les gens savaient pas, du coup, si j'étais à Paris ou à Phuket. Parce que quand t'es sur Slack et que les gens sont transparents, que tout se fait dans les channels publics, qu'il n'y a rien qui se fait en message privé et que les gens annoncent leurs difficultés, leurs problèmes, leurs réussites, leurs échecs en toute transparence à tout le monde. Tu peux pas, les autres peuvent pas lire tous les channels. On en a une centaine. Tout le monde peut pas lire tout toute la journée. Moi, oui. Moi qui suis, qui ai un fear of missing out, qui ai peur tout le temps de rater des infos. Et je lisais tout le temps. Et sur tous les channels, j'ai récupéré toutes les infos, je me notais toute la semaine. J'appelais mes collègues, j'envoyais des WhatsApp, je disais, il s'est passé quoi cette semaine? T'as pas des trucs à me filer, des infos croustillantes, des machins? Il s'est passé quoi? Ah oui, on a un hebdo une fois par semaine où les gens se partagent l'information qui s'appelle un stand-up. T'as 1 minute pour partager ton info. Et donc, avant, on n'avait pas de newsletter après cet hebdo-là. Donc, les gens qui étaient pas là savaient pas ce qui s'était passé. Aujourd'hui, on en fait une. Et donc, à l'époque, j'écrivais à mes potes sur WhatsApp. Et je lui disais, à l'époque, Camille, chaque stand-up, tu m'envoies des messages, tu me dis qu'est-ce qui s'est passé. Et je récupérais, c'était Gossip Girl, tu vois, je récupérais toutes les infos. Et à la fin de la semaine, salut tout le monde, au stand-up, il s'est passé ça, machin a ouvert sa start-up, machin a chuté, machin a tel problème, il y a un one after work tel jour. Tu vois, et donc, je prenais des photos de sur Slack, des captures écran, des trucs, et je pondais la célébration de la semaine, les échecs, les réussites, l'événementiel. Et du coup, bah, tu savais pas si j'étais là ou pas. Et ça, c'est un truc que je pense que les slasheurs ont, les gens qui font X slash Y slash Z, tu vois, je fais tellement de trucs dans ma vie que j'ai peur de rater les choses. Et donc, le FOMO que j'ai fait que ça a été ma plus grande force. Parce que je faisais mon travail, parce que je lisais tout, parce que je captais tout et parce que je posais des questions à tout le monde et je voulais rien rater en étant à 10 000 km. Plus t'es loin et plus tu compenses. Et du coup, plus tu peux t'occuper de la communication interne parce que t'es plus prêt que ceux qui sont prêts, en fait. Et ça, c'était ouf. Donc voilà, je vais pas trop m'étaler sur mes autres missions. Peut-être une qui est importante parce que ça, c'était une mission individuelle. Ouais, dis-moi.
Non, mais vas-y.
Ouais, ça, c'était une mission individuelle. Et c'est facile quand tu travailles un peu seul de travailler à distance. L'intéressant qui est arrivé, c'est après à raconter, c'est que déjà, pendant ces 3 mois-là, j'ai voyagé. J'étais à Bali, j'étais à Singapour, j'étais à Koh Samui. J'ai pris des avions. Je me suis dit, allez, si je dois mourir, tant qu'à faire, autant le faire en essayant de vivre. Ça sert à rien d'avoir peur de l'avion comme ça toute ta vie. Alors, bon, t'es en Asie. C'est peut-être le moment quand même de te dire que Bali, c'est pas à 20 heures d'ici, mais que c'est à 3 heures d'avion. Donc, je me suis dit, allez, j'ai voyagé en bossant. J'ai découvert d'autres pays d'Asie et d'autres villes, du coup. Et j'ai fait le tri dans ce que j'aimais et ce que j'aimais moins. Mais vraiment, Chalong, c'est chez moi, quoi. C'est à chaque fois que je repars, mes potes me disent, mais t'es à la maison, quoi. Donc voilà, Phuket for life, vraiment cette rue de cœur. Et où aujourd'hui j'ai des amis dans le monde entier. Hein. Aujourd'hui je vais à Miami, j'ai quelqu'un. Je vais au UK, j'ai quelqu'un. Je vais en Autriche, j'ai quelqu'un. Je vais en Australie, j'ai quelqu'un. Enfin, j'ai des gens dans le monde entier aujourd'hui qui sont devenus mes amis. Et du coup, bah, à chaque fois j'avais envie de rentrer, repartir à Chalong, pas être seule, retourner avec ces gens que j'aime, tu vois. Et donc je suis rentrée fin mai pour le séminaire de campagne en France à Paris. J'ai vu mon équipe, j'étais trop contente de les revoir. Ça aussi, tu vois, tu rentres à Paris, t'es dégoûtée, mais tu sais que tu vas voir des gens que t'aimes, tu vois. Donc j'ai fait le séminaire d'équipe, mais je suis repartie. Je leur ai dit, voilà, le deal c'était ça, ça a marché, je repars. Entre-temps, donc quand je rentre, j'intègre une équipe qui s'appelle mon entreprise ursaf.gouv.fr aujourd'hui, et qui était mon entreprise .gouv.fr avant, et qui est l'assistant officiel du créateur d'entreprise. Alors, très important pour ceux qui écoutent ce podcast, cet outil est génial. Je dis pas ça parce que je l'ai construit avec l'équipe et que j'en faisais partie. C'est que vraiment, Johan, Maxime, Maëlle, toutes ces personnes, Laurent, qui ont travaillé sur cet outil, en ont fait quelque chose d'incroyable. C'est que tu peux simuler plein de choses. Ils sont très forts en simulation. Et donc, tu peux simuler si t'embauches.
Il m'arrive encore de l'utiliser.
Ah bah, tu vois, il y a des gens qui me disent je l'utilise tous les jours. Donc, tu simules quand tu veux embaucher quelqu'un, tu regardes quel statut tu veux créer, t'as les to-do list, les checklists, enfin, et il est fait de manière start-up, il n'est pas fait en mode, c'est pas un CERFA, quoi. Et du coup, j'ai intégré cette équipe pour être BizDev, et donc déployer, c'est-à-dire j'étais avec 3 devs, et moi, il fallait que je déploie, en fait, il fallait que je fasse des partenariats, il fallait que je fasse connaître l'outil, il fallait que j'écrive aux entrepreneurs sur les réseaux sociaux, et donc c'était magnifique, puisque j'étais autant entrepreneur freelance, que j'étais passionnée d'entrepreneuriat, et ça, il faut aller voir mon profil pour voir tout ce que j'ai fait là, sur ces sujets, surtout l'entrepreneuriat dans les milieux économiques un peu plus défavorisés ou auprès des femmes. Et donc, c'était ma cible de cœur. J'étais avec des gens que j'aimais et je travaillais sur un sujet que j'aimais. Et dans un job que je savais faire, parler aux gens. Du coup, j'intègre l'équipe et là, je me dis, ah ouais, j'ai plus le même job maintenant. Et je suis à 3 jours par semaine. Et je suis plus à 2 jours, et je suis avec une équipe. Mais en fait, j'étais avec des devs qui ont l'habitude d'être en remote. Et aujourd'hui, il y en a un qui est à Albi. Enfin, voilà, il y en a un qui va pas au bureau. Enfin, tu vois, les gens travaillent de chez eux. Et ils ont cette culture, en fait. Ces gens-là ont cette culture tech de « j'ai pas besoin d'être au bureau pour travailler ». Et donc, ça a été une chance énorme pour moi, puisque je leur ai dit « voilà, je sais, j'intègre l'équipe, mais j'ai vraiment besoin de repartir ». Et ils m'ont dit « mais va ». Enfin, où il n'y a pas de problème. Tant que tu gères les calls, les visios, les trucs, et tu fais ton... Ben, il n'y a pas de souci. Et donc, je suis repartie, et j'ai travaillé avec Maxime et Johan et Maëlle de Phuket, et j'ai fait des visios à 22h30 et 23h, mais avec plaisir, parce que je les faisais devant ma piscine, tu vois, et pas parce que j'étais chez moi et que je travaillais à 23h dans mon lit. Et le cadre change tout, en fait, quand t'es avec des gens heureux là-bas, t'es des gens qui sont OK ici, que t'es contente de faire ce que tu fais dans un cadre magnifique et à 25 degrés à 23h, c'est pas grave en fait de faire le job, tu vois, parce que tu sais que demain matin tu te lèves et que tu te lèves avec un soleil incroyable et que t'es en plein mois de, je sais pas moi, décembre ou janvier, et que t'es pas sous la neige, tu vois. Moi j'aime pas la neige, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ouais mais moi je vais aller entreprendre dans les Alpes,
grand bien leur face, hein.
Grave, moi c'est soleil à mort. Et ça se
j'aime bien la neige et j'aime bien voir la neige, mais après, de là, il est bossé toute l'année.
Ouais. Bah, non. Tu vois, Johan est parti vivre à Albi. Enfin, il est parti, je sais qu'il est tout le temps dans la montagne, tu vois. J'adore la montagne, mais moi, c'est la mer, c'est le soleil, c'est...
Alors, montagne vue mer.
Non. Non. Le soleil, la plage, tu vois. Et donc, j'avais l'impression d'être dans un monde parallèle. Comme je te disais, j'étais avec des gens du monde entier. Je parlais anglais une partie de la journée, français une autre partie. Je parlais anglais à l'oral et français à l'écrit. Le matin, j'étais en scooter, pieds nus, en short, et j'allais m'entraîner à la Muay Thai ou au yoga et à la muscu. Et après, je rebasculais, devant mon écran, habillée pour le boulot. Enfin, c'était trop bizarre à chaque fois de faire le switch. Mais c'était pour moi, c'est la vie rêvée, en fait, aujourd'hui. Et ça s'est très bien passé avec mes collègues. J'ai fait le job que j'avais à faire. J'ai passé encore quelques mois là-bas. Et puis, j'ai pris la responsabilité d'un fonds public qui s'appelle le FAST, F-A-S-T, le Fonds d'accélération des startups d'État, qui est de quelques millions d'euros et qui est un fonds qui a été voté par les députés. Qui fait que on va dire qu'on est comme des investisseurs en série A. Nos produits de start-up d'État investiguent un problème auprès des citoyens, des usagers, veulent résoudre une douleur. Je te prends un exemple, par exemple, la start-up d'État qui est un peu le Doctolib de la justice, qui s'appelle Mon Suivi Justice. C'est deux juges d'application des peines qui se sont rendus compte que il y avait plein de gens qui sortaient de prison et qui devaient revenir les voir 2 mois après. Je sais plus trop comment on appelle ça, mais ils avaient une convocation judiciaire pour se présenter 2 mois après. Et ils venaient pas parce qu'ils n'avaient pas le mail, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas le SMS, ils n'avaient pas l'information. Et en fait, les juges, quand les gens viennent pas, ils sont obligés de les remettre en prison. Et du coup, elles ont intégré le programme et elles ont créé Mon Suivi Justice. Et elles ont utilisé au départ Doctolib, enfin la façon de faire de Doctolib, et elles ont envoyé des SMS. Pas utilisé Doctolib, hein. Elles ont utilisé la façon de faire de Doctolib, elles ont envoyé des SMS aux sorties de prison et les gens sont, les absences, les no-shows, les manquements ont diminué et les gens sont venus au rendez-vous et donc avec un truc tout bête comme ça.
Ouais, elles se sont rendues compte que les gens ne venaient pas parce qu'ils n'avaient pas l'info.
Bah ouais, tu vois, et du coup avec un truc tout bête, utiliser le numérique de manière pertinente, de manière frugale, avec des petits SMS, les gens ont commencé à venir et le taux d'absentéisme, le taux de non-présentation a diminué, a chuté. Je crois qu'en 6 mois, il a dû chuter de 30%, quelque chose comme ça. Il faudrait retrouver les chiffres. Et du coup, elles ont créé Mon Suivi Justice, une start-up d'État, pour diminuer en fait les retours en prison de ces sorties de prison. Et ça a marché. Et du coup, elles sont en train de créer une plateforme et c'est en train de grossir. Et à un moment donné, quand tu vois que ça marche, que tes utilisateurs adopte le sujet et que ça crée ça répond à une douleur, tu vois, ça diminue une douleur, ça devient une construction, on construit le produit et ensuite on accélère, on grossit, on recrute des business développeurs, on recrute des designers, on recrute d'autres développeurs et là moi j'interviens avec le FAST. Là on dit ça marche les gars, on a réussi à prouver que ça marche, on a réussi à prouver que l'outil est utile, on va accélérer, on a construit, maintenant on va accélérer, on a besoin d'argent. Donc, deuxième partie de construction, accélération. On pose entre 150, 200, 300 000 euros de cofinancement de la DINUM. Et donc, je commençais à gérer ce fonds-là. Et en fait, j'étais freelance. Et tu ne peux pas être freelance dans l'État français et t'occuper d'un fonds de plusieurs millions d'euros. Donc, très, très vite, il y a eu la question de il faut que ce soit un ou une contractuelle qui gère le fonds. C'est JN qui est en train de le gérer. Ça se passe très bien. On fait comment?
On lui laisse.
Ouais, dis-moi.
Non, c'est ça. Ils ont dû dire, on lui laisse.
Non, mais du coup, ils se sont dit, comment on fait, tu vois? Et soit on le passe à quelqu'un d'autre qu'on recrute, soit est-ce que tu as envie de nous rejoindre, quoi, tu vois? Puis moi, j'avais envie, depuis un moment, de basculer en contrat de toute façon. Je voulais me stabiliser et je pensais à ma vie future. Ça s'est bien goupillé. Je suis rentrée fin décembre. Début janvier, j'ai signé mon contrat. J'ai récupéré la gestion du fonds. Je suis sortie de l'équipe, mon entreprise, qui, elle, est partie à l'URSSAF. Il y a eu une consolidation et passation à l'URSSAF. Et moi, j'ai pris en charge la responsabilité du fonds en contractuel pour l'État français et du coup, à Paris. Forcément, je n'allais pas pouvoir être à Phuket et m'occuper de 3,5 millions d'euros pour l'État français, tu vois. Et depuis, je suis à Paris puisque notre cher ami Covid est venu nous rendre visite 2 mois après. Et voilà, depuis, je suis à Paris. En revanche, mon contrat se termine début 2023. Il y aurait une possibilité de renouveler 3 ans encore. J'en ai déjà discuté avec les équipes et avec Florian qui est mon manager sur le papier, puisque comme je te disais, on est un collectif avant tout. Je sais que je suis pas faite pour la vie de salarié, je suis pas faite pour la vie parisienne, je suis pas faite pour ne travailler que sur une seule chose. J'ai besoin de faire plein de trucs dans ma semaine. Je suis une slasheuse. J'ai besoin de travailler quelques heures, d'avoir beaucoup d'impact, de pas être en France et de pas être à Paris, de voyager. J'adore travailler dans les trains. Je me suis découverte une passion à travailler dans les trains. J'ai besoin de visiter des endroits et j'ai besoin de travailler une partie de ma journée et de faire autre chose une autre partie de ma journée. J'ai besoin d'avoir un temps de pro bono où je peux aider des gens. D'où le fait que je lance ma newsletter. D'où le fait que je commence à no coder pendant ma formation un petit produit qui pourra m'aider plus tard. Mais surtout, j'ai pas envie de quitter Beta. C'est vraiment mon lieu professionnel de cœur. Donc du coup, j'engrange de nouvelles compétences pour continuer à travailler chez Beta. Je l'espère en freelance, de l'étranger. Je l'espère en Asie, peut-être, si je peux. Mais sinon, je ferai bien le tour d'Europe en train, tu vois. Et j'apprends le no-code et j'écris de plus en plus et je me forme en copywriting et j'apprends l'automatisation et je veux avoir des compétences tech et produits et tout ça pour écrire là-dessus, pour écrire sur plein de trucs, pour apprendre à automatiser, pour intégrer ces compétences au sein de Beta, parce qu'aujourd'hui on a plein de développeurs et de développeuses tech, mais avant que ces gens-là arrivent, on a des prototypes à créer et nos intrapreneurs ou nos chefs de produits n'ont pas été formés à fabriquer de l'outil en prototypage. Et j'aimerais bien mettre ma patte là-dedans. Donc, j'apprends à apporter de la valeur à mes équipes, mais je redeviendrai freelance et je le ferai d'ailleurs. Donc voilà, je me prépare tout doucement à revenir au soloprenariat, au slow freelancing, à le faire, à écrire dessus, à le partager et à l'apprendre aux autres.
Et au soleil aussi.
Et au soleil, j'espère. En 2023. Voilà pour mon expérience.
On va conclure, parce que déjà, je te remercie pour le temps que tu m'accordes.
Avec plaisir.
Dans un planning qui vu de l'extérieur, m'a l'air hyper chargé. Okay. Moi, ça serait un mot concernant ta newsletter et son nom, Badasses.
Ouais.
Que j'adore. Voilà. Et son livre, c'est pour les femmes audacieuses qui veulent entreprendre seules.
Ouais, tout à fait. Alors, je n'avais pas du tout pensé en anglais. C'est assez marrant que tu le prononces comme ça, tu vois. Je l'ai pris en anglais badass, tu vois, ouais. Sans E et sans S au départ. Je me suis dit, j'ai envie de le modifier à ma manière, puisque moi, je modifie tout à ma manière. Il me manquait un truc. Tu sais, quand visuellement, tu vois un mot et il manque un truc. Et c'est très bizarre à dire, mais
c'est
moi...
C'est une horreur.
Tu écris le truc et tu dis non, il manque un truc, c'est pas possible, j'ai loupé une lettre, tu vois. Et je me suis dit, le mot n'est pas fini, c'est pas possible. Et je crois qu'il y a le côté, parce que badass c'est pour les hommes et pour les femmes en anglais, mais moi il y avait un truc français et féminin où le E me manquait. Et j'ai dit, c'est pas grave, je vais le rajouter. Et c'est ma marque de toute façon. Bon, badass avec un E c'est une plante. Mais je me suis dit, c'est pas grave en vrai, parce que l'idée c'est quand même que les femmes soient dans l'éclosion. Donc, tu plantes la graine et elle éclot et donc elle devient une belle plante, tu vois. Et elle révèle la badass qui est en elle. Donc, ça marche. Je peux mettre le E, tu vois. Et après, je me suis dit, mais la femme est plurielle et les femmes sont plurielles. Et donc, du coup, je me suis dit, je parle pas qu'à une seule badass. On a plusieurs versions de badass entre nous. Il y a la badass pro, il y a la badass perso, il y a la badass... tu vois, il y a une multi-badass qui est en nous et plein de badass en face de moi et plein de versions, plein de façons d'être badass. Et du coup, je me suis dit, allez, quand j'ai mis le E et le S, je savais que c'était bon, c'était ça. Pourquoi j'ai utilisé ce terme-là? Parce qu'en fait, j'ai une amie qui s'appelle Tara Dickman, qui est une vraie badass elle-même, qui, il y a 2 ans, m'appelait comme ça. Elle n'arrêtait pas de me dire, mais toi, t'es une vraie badass, mais toi, t'es une vraie badass. Et du coup, tout le temps, elle m'écrivait ça et ce mot est resté. Et en 2020, en plein Covid, quand on en discutait toutes les deux, je lui disais, j'ai envie de faire un truc pour les femmes. J'ai envie de faire un truc pour les femmes. Et elle me dit, pour les badass comme toi, en fait. Pour les badass comme... Elle répétait ça. Et bah, ça m'est resté. Et 2 ans après, j'ai pensé à elle et je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais. C'est maintenant. Parce que j'ai vécu... j'en ai pas parlé dans le podcast, mais j'ai vécu 2020 de manière très chaotique. Mon père est décédé en plein Covid. J'ai vécu 2021 de manière chaotique aussi. J'ai été très malade à la suite de ce décès où j'ai eu un gros choc. Et donc 2020-2021 ont été affreuses pour moi. Et 2022, le 1er janvier, je me suis levée en mode badass et j'ai dit cette année elle est pour moi. Et j'ai commencé la formation avec Nina. J'ai commencé la formation No Code. Tu vois, je suis en train de préparer 2023. Et donc je suis en train de d'aligner les choses et de tu vois de je sais pas comment dire, mais c'est comme si t'avais une to-do list et tu coches les cases. Et en fait, c'était le moment, là. C'était le moment. Mes prochains challenges, c'est la lecture rapide. Je veux apprendre à tenir les pads en boxe aussi pour aider les femmes à utiliser la boxe, tu vois, dans leur vie quotidienne. J'ai plein de challenges qui arrivent. Là, tu vois que je vais dépoter les uns après les autres. Et pour moi, ça, c'est un mindset de badass. Et je me suis dit, OK, t'as vécu des trucs terribles. Tout le monde a vécu des trucs terribles. T'as vécu des trucs de fou. Tout le monde n'a pas vécu des trucs de fou. Si tu les partageais, si tu les apprenais, si tu les donnais, je lis énormément, j'écoute plein de podcasts, j'apprends plein de trucs, j'essaye plein de trucs. Eh ben, il y a un why que j'ai dans la vie, c'est donner l'accès à l'information aux gens pour qu'ils se battent avec les mêmes armes que les autres et qu'ils puissent faire leur réussite, avoir leur réussite. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment ou jamais maintenant de partager ce que tu as appris, ce que tu as foiré, ce que tu es en train de faire, ce que tu vas apprendre, ce que tu vas faire. Parce qu'en vrai, on a toujours des gens qui nous disent « Ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai réussi ci, j'étais là, j'ai gagné ci. » Mais personne nous raconte au moment où ils sont en train de le faire, ce qu'ils sont en train de vivre. Et moi, j'avais envie de faire ça, d'être dans la transparence et de raconter. Et il y a plein de gens comme moi. Aujourd'hui, il y a plein de femmes autour de moi qui sont des vraies badasses, dont Noémie et dont plein d'autres dont je parlerai. Et je me suis dit, il faut leur donner de la visibilité, mais il faut aussi raconter les bons trucs, les trucs un peu plus difficiles. Et comme ça, les gens pourront se voir, se projeter. Et aujourd'hui, il y a plein de femmes qui m'écrivent pour me dire merci. Merci, un, partager. Ça m'aide. Et merci, deux, de partager et les bonnes et les mauvaises choses et de donner accès, en fait... alors, j'aime pas trop le terme de rôle modèle parce que je conçois pas du tout en être un. Mais je pense qu'être un rôle modèle, c'est pouvoir montrer la réalité des choses, de ce qui se passe, et pas dire juste j'ai fait ça et toi aussi tu peux le faire. Mais j'ai fait ça et j'ai pas réussi ça et j'ai réussi ça et tu peux faire comme ça. Ou je suis en train de faire ça. Si tu veux faire la même chose que moi, eh ben je suis en train de faire comme ça. Et quand je vais me foirer, je vais te le dire. Et quand je vais réussir, je vais te le dire. Et comme dit Caroline Mignot, donner, partager, c'est pas du tout perdre. Et à chaque fois que j'ai donné, à chaque fois que j'ai aidé, j'ai reçu. Et je crois que dans la vie, aujourd'hui, je suis encore vivante et j'arrive encore à faire des choses parce que j'ai aidé tellement de gens. Aujourd'hui, j'ai au moins 12 personnes dans Metagouf qui sont arrivées par mon réseau, tu vois, et qui ont construit des familles et des maisons et qui ont un salaire et qui me remercient. Et à chaque fois que j'ai aidé des gens, on me l'a rendu. Alors, on croit ce qu'on veut croire. Moi, je suis très croyante, mais ça m'est toujours revenu en positif. Et tout ce que j'ai réussi aujourd'hui, je l'ai réussi parce que j'ai donné avant de réussir. Et badass, c'est ça. C'est comment je vais te donner et comment je vais t'aider pour que tu te révèles la badass qui est en toi et pour que toi aussi, tu puisses vivre où tu veux, gagner l'argent que tu veux, travailler comme tu veux, avec qui tu veux, arrêter de vivre le sexisme, la discrimination, l'intersectionnalité, le mansplaining, toutes ces choses qu'on vit tous les jours et qui nous font souffrir, et juste se lever le matin, répondre à un problème des gens, les aider, les aimer, les accompagner, gagner de l'argent avec ça et faire d'autres trucs, t'occuper de ta famille, t'occuper de ta spiritualité, voyager, faire du sport, cuisiner et juste être heureuse et épanouie. Et pour moi, ça passe plus par le modèle de la start-up et des levées de fonds ou du salariat, ça passe par le soloprenariat, le solo freelancing, le nomadisme digital, on peut en parler, oui ou non, tu peux travailler très bien de pantin chez toi et être heureuse. Et donc je partage ma philosophie et mon modèle et je termine par un dernier truc et je dois filer à mon coaching avec Nina Ramen, je suis en retard de 10 minutes. Je partage un dernier truc qui est important, j'écris pour moi avant tout, c'est-à-dire que moi j'écris à la JN d'il y a quelques années qui aurait voulu cliquer sur sa boîte mail et qui aurait voulu recevoir ces infos-là, qui aurait voulu savoir comment on fait de manière fun, vulgarisée et sympathique et de quelqu'un qui lui ressemble. Et donc, j'écris à cette femme-là. Je me dis, il y a 5 ans, t'aurais voulu lire quoi? T'aurais voulu avoir quel type de mail, quel type d'infos? Alors, donne-les maintenant, ces infos-là. Parce que en faisant ça, en fait, tu vas combler un trou et aider des gens. Et c'est mon seul why aujourd'hui, c'est ça. Quelle information j'aurais voulu avoir à l'époque pour avoir les bonnes armes et réussir?
Ben écoute, t'as répondu à ma dernière question qui est, que conseiller à quelqu'un qui veut se lancer?
Eh ben, lire ma newsletter. Et venir me parler en mail ou en MP et je serais ravie de vous répondre, mais surtout apprendre des compétences, tout s'apprend. Donc la première chose à faire, c'est j'ai envie de faire quoi dans la vie, c'est une erreur ce que je viens de dire. La première chose, c'est j'ai envie de résoudre le problème de qui, j'ai envie de décrire à qui, j'ai envie d'aider qui. Une fois qu'on a trouvé la personne qu'on veut aider, on va lui demander à cette personne là ce qu'on veut lui apporter. Et une fois qu'on a construit en fait ce lien avec ces gens là avec ce persona, avec ses utilisateurs, eh ben on les prend 15 minutes en Canonly, 30 minutes, et on leur pose des questions. C'est quoi ton problème? Tu veux aller où? Tu veux faire quoi? C'est où que tu as échoué? C'est où que tu veux réussir? Et on construit un produit pour répondre à la problématique de ces gens-là. La première chose à faire, c'est de trouver qui vous voulez aider. Et souvent, Ce sont des gens qui vous ressemblent. Ce sont des choses que vous avez vécues. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à faire dans votre vie et que les autres n'arrivent pas à faire et que vous avez réussi à résoudre, que vous voulez apporter? Et là, vous construisez un produit pour répondre à ça et vous en faites votre marque personnelle. Vous en faites quelque chose et là, vous apprenez les compétences qui vont avec. Ok, je vais résoudre ça comment? En écrivant, en faisant des vidéos, en faisant un podcast, en faisant un produit? Bon, je ne sais pas faire un podcast. YouTube, comment faire un podcast? YouTube, comment copywriter? Udemy, Open Classroom, ça, tout s'apprend partout. Vous mettez en place des compétences.
Coursera,
partout. Vous mettez en place des compétences, vous écoutez des podcasts, vous regardez vos concurrents, vous faites du reverse engineering, vous étudiez comment eux ont fait, vous apprenez comment résoudre ce problème, vous essayez petit à petit de le résoudre, vous commencez à facturer, vous faites de l'argent, et une fois que vous avez un petit budget, vous prenez un avion et vous vous cassez loin où vous avez envie d'aller vivre et vous gérez comme si vous étiez ici, mais loin en fait. Et franchement, c'est simple et c'est difficile à la fois. Je sais que c'est très compliqué d'arriver à commencer à dérouler, mais il y a tout un système, il y a tout un process et ça, franchement, c'est ça que j'ai envie de partager. Et dans les prochaines semaines, c'est ce que je ferai, c'est partager ce système, ces stratégies, ces process que j'ai appris de manière très simple, avec des frameworks, des guidelines, des façons de faire assez simples, des espèces de checklists, et de se dire, en fait, c'est pas aussi difficile que ça, et faut arrêter de cacher, en fait, l'information. Il y a des gens qui l'ont fait, on va les étudier ensemble, et on va en discuter, et il y a d'autres personnes qui le feront. Voilà.
Eh bien, écoute, je te remercie pour cette quasi-heure qu'on a passé ensemble.
Ouais, merci à toi pour l'invitation.
On va monter ça rapidement, diffuser rapidement. J'ai ma petite idée de la date.
Ah ouais?
En fait, moi, je diffuse deux fois par mois. Ouais. Et là, normalement, le prochain épisode devrait être diffusé dans 10 jours, donc lundi, la semaine suivante.
Le 21, du coup.
Le 21. Mais étant donné que ta newsletter sort le 14, ça peut être pas mal que le podcast sort le 14 au matin.
Écoute, je suis extrêmement ravie et flattée que tu sortes le podcast en même temps que la newsletter et je pourrais en parler comme ça. Et c'est un jour important pour moi, le 14 février. J'ai vécu des trucs compliqués, rien à voir avec la Saint-Valentin. Le jour du love et de la moula. Et en fait, j'ai dit, cette année, le 14 février, il est pour moi. Donc, écoute, tu ajoutes à mon bonheur et je serai très contente d'écouter. Je ne sais pas si je vais me réécouter parce que je parle super vite. Et je pense que je vais rigoler, mais voilà, c'est qui je suis et je crois que c'est ma plus grande force aujourd'hui de faire les choses rapidement.
Mais écoute, non, mais tant mieux.
Ouais.
Honnêtement, reste comme t'es et ça a été un plaisir de t'embêter la semaine dernière sur LinkedIn.
Et ben avec grand plaisir, regarde, t'as réussi à m'avoir et moi je suis ravie et très contente que tu m'aies invitée sur ce podcast et merci et franchement venez faire ce podcast, c'est trop bien, c'est une belle expérience et ça vous permet de vous rappeler plein de kiffs que vous avez eu dans votre vie et de les raconter aux autres et il n'y a pas mieux que de donner dans la vie quoi. C'est vraiment mon credo.
Je te remercie énormément.
Merci Aline de prendre le temps de raconter ces choses-là aux personnes pour qu'elles puissent se lancer.
Mais écoute, c'est un plaisir, ça me touche énormément.
Belle journée à toi.
Merci, et bonne journée à toi aussi. Ciao, ciao.